battant.
Le podcast de tous les aidants, présenté par Christelle Evita
et Laurent François.
Salut Christelle.
Salut Laurent.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Eh bien écoute, je te parlais d'un pote il y a quelques temps là qui plaçait son proche en EHPAD. Alors tu as donné de très très bons conseils, à savoir partir en véritable investigatrice ou investigateur, tel un détective privé pour pouvoir justement trouver l'EHPAD qui va accueillir le proche. Mais là on va parler de tout ce qui est documents à prévoir, parce qu'une fois qu'on a fait les recherches, nous sommes en France, eh bien il y a un peu d'administratif.
Un tout petit peu.
Donc, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, toutes les pièces qu'il faut mettre dans le fameux dossier du proche aidant qui va être placé, s'il te plaît?
Chaque EHPAD a son dossier, mais néanmoins, il y a des grandes pièces types qui reviennent dans tous les dossiers. Et ce que je conseille, c'est que les aidants s'organisent le plus tôt possible pour récupérer ces documents. Alors, on parle de quels documents? Le dossier médical de votre proche, de la personne que vous aidez.
Ce qui me paraît tout à fait normal.
Mais pas forcément évident à récupérer parce que l'hôpital ou le médecin va tarder à vous le remettre, va pas vouloir vous le remettre pour moult et moult raisons. Donc, très tôt se dire, ok, ce document qui est le dossier médical, je vais en avoir besoin, donc ne tardez pas pour le demander.
Là, on vient de parler d'un premier document. Il y a d'autres choses. Par exemple, tu me parlais d'une attestation ou d'un certificat de perte d'autonomie de la personne. Qu'est-ce que c'est très concrètement?
Alors, on peut donner des appellations diverses et variées, mais en tout cas, c'est un document qui atteste du niveau d'autonomie et très souvent de perte d'autonomie cognitive et ou physique de votre parent. Et cette attestation ou ce certificat est délivré par des médecins qui sont inscrit sur la liste du tribunal, du lieu de résidence de votre parent ou en tout cas, ça ne peut pas être fait par exemple, le médecin du service hospitalier si votre parent et votre parent ou votre proche est pour l'instant à l'hôpital, ni par le médecin traitant. Ce sont des docteurs, on va dire, entre guillemets, assermentés qui vont donc venir au contact de votre aidé et faire un certain nombre de constatations, et ensuite dire, madame un tel, monsieur un tel, les capacités cognitives altérées, pas altérées, les capacités physiques altérées, pas altérées, et ensuite le docteur va dire, et je constate que cette personne, effectivement, elle ne peut plus prendre soin d'elle par ses propres moyens, il faut absolument qu'elle soit installée en institution ou maintien à domicile, mais sous conditions, etc. Donc, c'est vraiment crucial parce que ça va servir à l'EHPAD et à l'équipe pluridisciplinaire qui va regarder le dossier pour pouvoir se dire, ok, cette personne, dans ce qu'on décrit d'elle, elle peut correspondre au type de résident qu'on a en capacité de prendre soin.
Donc, c'est absolument fondamental, comme le document médical, parce que quelque part, c'est ce qui permet à l'EHPAD de prendre la bonne décision. Quelque part, ça t'évite aussi, toi, quand tu fais tes investigations, de perdre du temps.
Complètement, complètement. Je prends mon exemple. Notre mère, il y a eu un moment l'hésitation sur unité Alzheimer fermée, donc c'est-à-dire 100% clos. Vous pouvez pas, ils ne peuvent pas entrer et sortir librement. Parce que du fait de leur pathologie, ils peuvent se perdre, etc. Donc, il y avait cette hésitation de est-ce qu'on la met en unité 100% fermée ou dans un EHPAD où les allées-venues sont beaucoup plus libres. Et cette question, on se l'est posée d'autant plus que notre mère a quitté trois fois l'établissement. Alors, certains pourraient dire fugue. Non, elle est sortie parce que elle sortait. Mais après, du fait de cette pathologie, elle savait plus comment revenir. Donc, ce document, il est crucial parce qu'il permet de dire le niveau, on va dire, de perte d'autonomie rencontré par votre parent et que l'EHPAD puisse se dire, ok, nous, notre EHPAD, il est adapté ou pas.
Il y a aussi un aspect financier. Et en premier lieu, c'est comme d'habitude, des preuves de revenus.
Totalement, preuves de revenus. Si votre proche est toujours, salarié, en tout cas, il n'est pas encore à la retraite, donc des preuves de revenus ou... S'il est à la retraite, on va demander ses pensions de retraite, en tout cas tout ce qui constitue son revenu. Donc, vous voyez ces documents qui peuvent sembler comme ça anodins, je prends encore mon exemple. Pour notre mère, aller chercher ces documents auprès d'une personne qui a des troubles cognitifs, c'est juste l'enfer sur terre. C'est quasi impossible. Donc, quand je vous dis de se préparer, d'anticiper, c'est pour ça. Parce qu'il va falloir aller dans la maison, faire des fouilles archéologiques ou appeler les services concernés pour leur expliquer la situation, etc., etc. Ou si il y a, par exemple, ces kilomètres dont on parlait, 226 kilomètres séparent l'aidant et l'aidé. Vous n'avez pas les documents, votre proche, il n'a peut-être pas des troubles cognitifs, mais il est à ce moment-là hospitalisé. Donc, il n'est pas en capacité de vous donner ces documents qui sont restés chez lui. Eh bien, malheureusement, peut-être que vous allez devoir vous rendre chez lui, donc faire ses kilomètres, etc., etc. Donc, plus tôt vous pouvez récupérer ces documents, mieux c'est.
On parle également d'un garant, comme pour un appartement.
Comme pour un appartement, avoir quelqu'un en capacité de se porter, caution solidaire, si votre proche, pour une raison ou une autre, n'est plus en capacité de payer chaque mois, eh bien, l'EHPAD va se tourner vers vous pour vous demander de régler ce qui n'est pas réglé.
Ce qui est assez classique, finalement, c'est aussi une structure qui a besoin de gagner de l'argent.
Oui, c'est une structure qui a besoin de gagner de l'argent. Et donc, elle vous demande, elle va se tourner vers un tiers pour lui dire « Vous, vous êtes porté caution. Merci de bien vouloir solder la dette. »
Alors, est-ce qu'il y a un dépôt de garantie ?
Eh oui, grande surprise pour moi, même si rétrospectivement, je me dis « Évidemment. » Donc, il faut être en capacité de pouvoir avancer l'équivalent de 2 mois, vraiment comme un dépôt de garantie, à l'établissement. Donc, vous avancez les 2 mois plus le mois à venir ou en cours. Donc, là encore, anticiper, voir les fonds, les revenus que vous avez de côté pour lorsque votre parent ou votre proche va entrer en EHPAD, que vous n'ayez pas à faire des prêts à la conso, quoi.
Éviter évidemment de se mettre dans une situation très compliquée parce que c'est déjà émotionnellement très très fort ce dont on est en train de parler. Il y a un dernier point qui m'a vachement étonné.
Moi aussi.
C'est la lettre de motivation.
En tout cas, dans le dossier que ma sœur et moi on a eu à remplir, il fallait faire une lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous souhaitez que votre parent ou votre proche, je parle beaucoup de mon parent, c'est pas pour ma mère, mais soit accueilli dans cet établissement. À vous de trouver les bons arguments qui vont faire vibrer là où les cordes sensibles de l'équipe pluridisciplinaire qui va regarder le dossier.
Donc au final, il faut se placer. La garantie financière, à savoir avoir de quoi régler, n'est pas suffisante.
Non.
Elle est nécessaire mais pas suffisante. Il faut faire preuve de motivation, mais ça on le disait dans la première partie de cet épisode sur les recherches. Quelque part, il faut toujours montrer, entre guillemets, patte blanche.
Ouais.
C'est loin d'être évident. Tu me disais qu'il fallait aussi préciser les délais au sein desquels tu souhaitais que ton proche ou ton parent puisse être mis en EHPAD, c'est ça ?
Il y a l'idée de l'EHPAD, ça va être seulement au moment où on va accueillir mon proche, au moment où j'en ai le besoin. Ça, c'est le monde idéal qu'on aimerait. Les EHPAD, il manque des lits aussi. Alors, c'est-à-dire qu'on dit il manque des lits, il manque de la place. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous, vous aimeriez ou l'hôpital vous a dit, là maintenant, il faut absolument que votre proche soit mis en institution. Mais les EHPAD vers lesquels vous allez vous tourner, ils n'ont pas forcément de la disponibilité tout de suite. Donc, dans la lettre, il faut indiquer si c'est pour une admission au plus tôt, si c'est pour une admission sous 3 mois ou si vous souhaitez uniquement, entre guillemets, pour l'instant, être mis sur liste, entre guillemets, d'attente, mais en tout cas sur la liste des personnes qui souhaiteront à terme, quand le besoin s'en fera sentir, pouvoir intégrer l'établissement. Donc, anticiper, encore une fois, peut-être que votre proche n'a pas encore le besoin impérieux d'être accueilli en EHPAD, mais faites dès à présent ce dossier. Commencez à rencontrer les équipes parce que peut-être que le dossier que vous allez déposer dans tel EHPAD, eh bien, l'EHPAD ne sera pas en capacité d'accueillir votre proche parce qu'il n'a pas les infrastructures pour. Donc, il faudra aller ailleurs, etc., etc. Donc, faites ce dossier, indiquez bien le délai et ne vous dites pas « Ah mais oui, ce dossier, il faut le faire juste quand on a besoin que le proche soit accueilli. » Non, ça peut être pour l'immédiat, moyen terme ou long terme.
Donc, il faut vraiment anticiper, en fait, à tous les niveaux. Hein.
Pour moi, la clé, c'est l'anticipation. Et comme je ne connaissais pas le sujet avant d'y être confrontée, je n'ai rien anticipé. Donc, j'étais toujours, pire que dans l'urgence, j'étais toujours en retard dans tout, dans les dossiers, dans la prochaine étape. Je subissais. Donc, c'est pour ça qu'on fait notre podcast, pour donner le temps d'avance aux aidants.
Et oui, même trois coups d'avance, comme on dit, au billard. Alors, on parlait de motivation tout à l'heure. Il faut savoir relancer. Il ne faut pas hésiter, hein, tu me le confirmes.
Relancer, relancer, relancer. Les EHPAD sont aujourd'hui en manque, comme on le disait, de places, de lits. Donc, ils ont plus de dossiers que de capacité d'accueil. Donc là encore, c'est aussi, même si ce n'est pas que ça, mais ça va être aussi en fonction de votre capacité à montrer votre intérêt en relançant par téléphone, par mail, sans agressivité, parce que ce n'est pas parce que vous êtes en capacité de payer que, en gros, on va vous ouvrir, on va vous dérouler le tapis rouge. Non, c'est pas du tout la bonne option. Mais en tout cas, il faut relancer, montrer votre intérêt, toujours la même chose, créer du lien et rester dans les esprits.
Donc, ça veut dire rappeler, écrire des emails, sans être énervé, peut-être même se redéplacer.
Oui, tu as parfaitement raison.
Bon, dis-moi, mais on peut pas faire ça aussi par Internet? J'ai entendu parler d'une plateforme, là. Comment s'appelle-t-elle?
Via Trajectoire.
Ouais, c'est ça, Via Trajectoire. C'est le Airbnb du placement en EHPAD?
Très bonne image, moi c'est comme ça que je l'appelle. C'est vraiment dédié à ces recherches. Vous pouvez remplir votre dossier en ligne, donc avec ces documents qu'il faut avoir récupérés, scannés, etc. Et faire l'envoi de votre dossier à différents établissements. Mais même avec cet outil, et ça je l'ai eu de source d'un EHPAD qui me disait « mais même si vous nous envoyez via trajectoire, appelez-nous pour vous assurer qu'on a bien reçu le dossier. » Parce que les trois quarts du temps, on ne les reçoit pas ou pas dans la bonne boîte mail. Donc, vous pouvez utiliser via trajectoire, vous pouvez faire des recherches géographiques, etc. etc. mais on appelle, on relance, on ne fait pas juste du tout online avec jamais de contact.
En somme, on reste dans l'humain. On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix.
Les EHPAD sont débordés. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et même si vous avez les moyens de payer, bah ça ne veut pas dire, ça ne vous garantit pas une place en EHPAD pour votre proche.
Ça la garantit d'autant moins, même si évidemment ça va aider, que vous pouvez avoir, je dis n'importe quoi, c'est 5000 euros par mois, vous êtes en capacité ou votre proche est en capacité de payer, mais cet EHPAD n'a pas les infrastructures par rapport à la pathologie de votre proche. Donc même si vous le trouvez super cet EHPAD parce qu'il est proche de chez vous, il y a un parc, il y a tout ce que vous voulez... Si l'EHPAD n'a pas les infrastructures ni l'équipe pour bien prendre en charge votre proche, ils diront non. Donc l'argent ne fait pas tout, même s'il aide beaucoup.
Comme quoi, c'est loin d'être évident. Eh bien, écoute, je te remercie, Christelle. Il y a eu une première partie, sachez-le, chers auditrices, chers auditeurs, sur les recherches. On part en investigation, vous l'avez bien compris que c'était loin d'être simple de placer un proche en EHPAD. Là, on vient de vous parler, entre guillemets, des documents à prévoir, l'anticipation, et puis c'est quelque part une anticipation administrative. Donc ne perdez pas espoir, surtout pas. Anticipez. Anticipez et anticipez encore, parce que vous pouvez pas faire ça à la dernière minute, c'est pas comme prendre une chambre d'hôtel, hein, que ce soit très très clair. Et puis, ouais, je l'ai encore redire, gardez espoir. Toi, tu ne connaissais pas la problématique. Tu as été en retard. Eh bien, justement, grâce à Battant, le podcast
de tous les aidants,
vous pouvez anticiper et moins galérer. Bon, Christelle, on se dit à très très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on fait ? 5 étoiles sur
Apple Podcast
et sur Spotify. Ciao, ciao.
Salut.